Alors ce matin, j'ai choisi de partager avec vous deux lectures bibliques, le psaume du jour et puis un passage de l'évangile de Marc. Le psaume du jour, c'est le psaume 116 que je vous lis maintenant. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourna à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Mes yeux des larmes, mes pieds de la chute, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux. » Je disais dans mon angoisse, « Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous les bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Et puis, un petit passage que vous connaissez très bien, qui est complètement central dans l'évangile de Marc. Et c'est pour ça que je l'ai choisi ce matin, un peu parce que pour moi, il est aussi central dans mon ministère. C'est un texte sur lequel j'ai beaucoup travaillé à plusieurs reprises. Il est au chapitre 8 de l'évangile de Marc, c'est-à-dire exactement au milieu de l'évangile, dans une période où Jésus vient de prêcher, de guérir. Il a déposé, comme ça, avec ses disciples avec lesquels il est en route, beaucoup de signes. Nous sommes juste après la guérison d'un enfant sourd-muet, d'un aveugle à Bethsaïda. Il a rencontré la femme cananéenne, il a marché sur les eaux, il a multiplié les pains deux fois. Vous voyez qu'il est dans cette période de signes. Et puis, il y a ce petit texte, suivi d'un autre, que je ne lirai pas ce matin, un ensemble de deux textes. Et puis, à partir de là, il passe dans le temps de la Passion, ou dans le temps de sa montée vers Jérusalem. Et donc, c'est le texte qui est juste au milieu, et qui n'est que dans l'évangile de Marc. Donc, qui pour le coup, fonde vraiment quelque chose dans cet évangile. Je vous lis ce texte. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur fit en chemin cette question. Qui dit-on que je suis ? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ? » Et Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Seigneur, ta parole est une lampe sur nos routes. Guide-nous de cette lumière. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 284, les 3 strophes de ce cantique. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. Nous nous sommes mis à l'écoute de ta parole. Que cette parole vienne féconder nos paroles. Que cette parole vienne ouvrir nos oreilles. Que cette parole vienne remplir nos cœurs. Amen. Alors je vous l'ai dit avant de lire ce texte, c'est un texte central dans l'évangile de Marc. Et vous l'avez vu, c'est un texte en même temps vif, dur pour les disciples qui accompagnent Jésus. Une des convictions fortes de la réforme, et il est bon de le souligner encore et encore et encore dans cette année Luther, quand même, il faut se rappeler que nous sommes dans le temps de ces thèses. Une des convictions fortes de la réforme était de vouloir tenter de rétablir une relation vraie, une relation véritable entre l'homme et Dieu. Relation à l'époque que les réformateurs semblaient pervertis et que Luther, nous le savons bien, retrouve personnellement un jour alors qu'il était en route. C'est une relation que, bien sûr, chacun de nous, collectivement comme ce matin, ou individuellement aussi, dans nos histoires, dans nos vies, nous essayons de vivre à travers notre lecture biblique, à travers l'écoute de la parole et à travers aussi de nos engagements, de nos relations. Le Dieu de la Bible parle. Il parle et sa parole convoque, dresse celui qui répond comme un vis-à-vis libre, parfois responsables, parfois un peu moins, devant Dieu et devant les autres. Et je crois que c'est un peu le fond de ce texte de ce matin. Il nous parle d'un vis-à-vis entre l'homme, entre quelques hommes et Dieu. Un tête-à-tête pour moi essentiel et fondateur de ma foi, mais aussi certainement, en tout cas d'une manière de vivre la foi, rendue possible par Jésus. Il commence par ces mots, « Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. » Jésus et ses disciples se déplacent. Alors vous savez que c'est une constante, bien sûr, dans les évangiles, et que c'est en chemin, et c'est toujours en chemin que se passent les choses importantes dans les évangiles. Jésus interroge ses disciples, « Que suis-je ?» au dire des hommes, ou plutôt « Que dit-on que je suis ?» Vous savez, le « on », c'est facile. Dans nos familles, nous le savons bien, dans nos histoires, on dit que, on pense que, on aimerait bien que. C'est une espèce d'anonyme très facile. Et vous savez comment ça se passe dans les familles. On devrait sortir la poubelle, on devrait ouvrir les volets, on devrait faire la cuisine. On, c'est anonyme, ça nous permet beaucoup de choses. Et Jésus utilise le « on ». Qui dit-on que je pense ? Et bien sûr, les disciples répondent de la même façon, c'est-à-dire de façon relativement anonyme et peu personnelle. Ils sont relativement à l'aise pour donner des réponses qui ne sont pas leurs réponses. Jean-Baptiste, Élie, un des prophètes. Voilà, ce sont des réponses préparées par d'autres. Jésus n'aime pas les réponses préparées par d'autres, en tout cas c'est ce qu'il nous dit dans ce texte. Et vous, leur dit-il, vous, qui dites-vous que je suis ? Il demande un engagement, une réponse personnelle. Et Pierre, bien sûr, Pierre fait une belle confession de foi. Tu es le Christ. Alors on pourrait, bien sûr, imaginer, comme dans un certain nombre de confessions de foi des évangiles, que Pierre a donné la bonne réponse, celle qui était attendue. Une réponse témoignant d'une foi solide, peut-être conforme à la théologie officielle ou à celle qui était attendue. Et Jésus le condamne et le renvoie. Ne parle ainsi de moi à personne. Je crois que Jésus ne veut pas qu'on le prenne pour ce Messie glorieux et attendu, que tous appellent de leurs prières et de leurs vœux. Son chemin à lui passe par l'abaissement du serviteur, il le dira juste après d'ailleurs. Et Jésus sent déjà chez Pierre quelque chose qui pointe dans le refus des souffrances qui l'attendent, du refus de ce que les disciples vont être amenés à vivre avec Jésus dans ce temps de la passion. Il discerne peut-être déjà cette incapacité à comprendre que peut-être se tenir devant Dieu, c'est aussi se tenir devant des choses difficiles et pas seulement devant des choses faciles et miraculeuses. Ainsi, un des fils conducteurs de cet évangile de Marc, et je crois qu'il culmine dans ce passage, c'est l'incompréhension des disciples. Il n'est pas chose facile d'essayer de vivre sa vie devant Dieu, pas plus pour eux que pour nous, parfois. Et je vous proposerai ce matin quelques pistes de réflexion à partir de ce texte pour voir ce qui se joue sur cette vie avec Dieu ou en face de Dieu. Et tout d'abord, ça commence par une question. Que dit-on que je suis ? Et puis, que dites-vous que je suis ? Une question pour les disciples, une question pour chacun d'entre nous, bien sûr, une question qui voudrait peut-être susciter nos réponses. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est avant tout une question. Jésus ne livre pas quelque chose de tout fait, quelque chose qui serait comme
comme un bloc, comme un savoir, comme une connaissance sur Dieu, mais il livre avant tout une question. Il pose une question et il leur réclame une réponse personnelle en les renvoyant bien sûr à leurs paroles propres. Ainsi, cela nous dit que se tenir devant Dieu, c'est se tenir à l'écoute de cette parole, mais cette parole qui est aussi une parole faite de questions et non pas que de réponses. Une parole qui interpelle, une parole qui va chercher tout au fil de l'Évangile à nous donner la parole et à nous aider, à nous inviter à formuler nos propres réponses. Et je crois que c'est en ça que cette parole, elle ouvre chez nous, chez chacun, chacune d'entre nous, des espaces de liberté possibles. On ne dit pas, on ne nous dit pas, voilà comment il faut penser, voilà comment il faut croire, voilà comment il faut connaître. On vient nous chercher en nous demandant nos propres réponses. Et je crois que c'est des questions qui courent tout au long de ce passage. Je crois que les disciples n'osent pas interroger Jésus. Ils n'osent pas formuler leurs questions. Parce que peut-être ça ne se faisait pas trop d'aller interroger le maître, mais aussi parce que les questions des disciples, et on le voit dans l'Évangile, elles sont difficiles à formuler. C'est leur question sur leur propre impuissance à guérir comme Jésus guérit, leur propre impuissance à soulager les souffrances de la terre, les questions que nous avons, que bien sûr on vous a posées des dizaines et des dizaines de fois dans vos vies de chrétiens ou de protestants, des questions devant le mal qui submerge. Pourquoi ? Pourquoi ce mal submerge ? Et toi, si tu es croyant, si tu es chrétien, quelle réponse apportes-tu à cela ? Ces questions que les disciples n'arrivent pas à formuler tout au long de cet évangile. Je crois que cette question initiale de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?», elle rattrape, elle englobe toutes ces questions comme quelque chose qui laisse aussi cours à toutes ces interrogations fondamentales sur le sens de l'existence, le sens de l'histoire. Elle les porte, elle nous met au défi. Reeves, hein, Hubert Reeves, écrit ceci que j'aime bien. Il dit « On rencontre Dieu au niveau des interrogations et non plus au niveau des certitudes. On le trouve mêlé à nos angoisses et à nos questions sur le sens profond des choses. » Alors, c'est ma première remarque. La foi comme une question qui nous porte, qui nous conduit, comme peut-être une multitude de questions, mais qui nous offre aussi une multitude de possibles. Et du coup, et ce sera ma deuxième remarque, la foi, elle n'est pas statique. Ce ne peut pas être l'immobilité des certitudes dogmatiques. C'est un mouvement, c'est une quête, c'est un chemin. Et d'ailleurs, le mot chemin revient dans ce passage, comme il revient dans l'Évangile, c'est en chemin que Jésus rencontre, c'est en chemin que Jésus guérit. C'est en chemin qu'il interroge ses disciples et c'est en chemin qu'il est confronté à leurs incompréhensions. On ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas le capturer. Je crois que notre foi, nos fois sont des chemins beaucoup plus que des possessions. Et ça nous demande de prendre des risques pour nous laisser prendre par ces chemins. Et peut-être par moment d'accepter d'entrer dans des décalages, dans des porte-à-faux avec les logiques qui nous sont offertes. C'est bien ce que les disciples auront du mal à comprendre, et notamment quand Jésus leur parlera de ses souffrances et de sa passion. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix. C'est le texte qui est juste après, le texte que nous venons de lire. Et qu'il me suive. Je crois que l'Évangile, ce n'est pas un petit surplus de spiritualité pour un monde en manque de sens. Un message simplement rassurant et confortable qui viendrait satisfaire quelques curiosités religieuses. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est un appel profond que chacun suit à sa mesure et comme il peut. Mais quand même que c'est quelque chose qui nous engage dans nos relations et qui vient nous chercher relativement loin. Et sur ce chemin proposé, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Je crois que c'est une route qui nous ouvre vers des espaces que nous ne connaissons pas et sur lesquels, parfois, nous avons un peu peur de nous engager. Et je crois que ça m'amène à ma troisième remarque. Un troisième élément que j'ai déjà évoqué, je crois que ce qui nous est dit là aussi, c'est que Dieu, ou en tout cas notre relation à Dieu, elle n'est pas de l'ordre d'un savoir, d'une évidence ou d'une connaissance, mais elle est de l'ordre d'une relation. Ce qui nous est dit là, c'est que c'est en chemin, vous savez, quand on marche avec quelqu'un, on est dans une relation. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on marche avec quelqu'un, généralement, on regarde devant, on ne regarde pas l'autre. Et souvent, quand on regarde devant, on arrive à dire des choses qu'on n'arrive pas à dire quand on regarde l'autre. Parce que quand on a l'autre en face, quand on est les yeux dans les yeux, parfois c'est compliqué. Quand on est côte à côte sur le chemin, parfois c'est plus facile. Vous savez, ça se passe aussi dans les voitures. Quand on conduit, on a l'accompagnateur, enfin la personne qui est à côté, on conduit. Et parfois en voiture, il se pose des choses qu'on... On a des dialogues, parfois plus que des dialogues, mais parce que je crois qu'on ne se regarde pas en face. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, dans la position du chemin et de la route, on est côte à côte. Et on regarde dans une même direction, mais on peut se parler comme ça. Christ fait route avec nous, et je crois qu'il y a quelque chose qui, dans cette rencontre-là, d'abord est décalé, parce que c'est vrai que jusqu'il n'y a pas très longtemps, on enseignait Dieu. Voilà ce qu'il fallait penser de Dieu, voilà ce qu'il fallait penser, ce qu'il était bien ou ce qu'il n'était pas bien, ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, bien sûr. Je crois que aujourd'hui, en tout cas, on est dans un autre type de relation à Dieu, on est dans une autre rencontre, dans quelque chose qui est permis peut-être ou possible autrement, une rencontre qui n'est pas forcément spectaculaire. En tout cas, c'est ma conviction, je n'ai pas besoin d'avoir fait la rencontre de ma vie avec le Christ un matin en me regardant dans la glace pour pouvoir dire « je crois ». Ça, c'est des discours qu'on entend hein, parfois dans des églises très évangéliques, entre autres moi qui ai voyagé en Afrique ou en Haïti, où on a cette nécessité d'avoir acté la rencontre avec Jésus comme ça, de manière forte et presque existentiellement, et à ce moment-là, on est converti. Non, je crois que cette rencontre, c'est autre chose. Elle n'est pas le résultat de quelque chose qui va m'arriver subitement. Ça peut avoir transformé nos vies, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, je crois que c'est quelque chose dont je ne suis pas maître. C'est quelque chose dont Dieu a l'initiative. C'est quelque chose qui va s'approcher de moi et qui va m'accepter tel que je suis et que je vais accepter. Donc c'est comme, vous savez, c'est comme quelque chose qui se présente à nous et puis que, voilà, qu'on va accepter, auquel on va dire oui. On n'est jamais obligé de dire oui. On y est disponible, ça nous arrive, ça vient vers nous, et puis on répond. Et puis voilà qu'on est entraîné. Ce sont des rencontres, je crois que ce sont des rencontres chaque jour. C'est l'événement parfois quotidien, parfois beaucoup plus espacé, par lequel un homme, une femme se sent accueilli, aimé, gratuitement, quelles que soient ses défaillances, quelles que soient ses performances, quelle que soit sa spiritualité, quelles que soient ses convictions ou son engagement. Cette foi, elle est une confiance, je crois, qui nous arrache à nous-mêmes, qui nous établit quelque part un peu hors de nous-mêmes. Pour que nous soyons à même de prendre appui sur autre que nous-mêmes. Ça, je pense que c'est très important. Nous ne sommes pas tout puissants. Et nous pouvons, de temps en temps, nous reposer sur. Je crois que c'est la grande promesse et la grande vérité qui nous est donnée. Nous pouvons nous appuyer sur un autre qui est là. Et je crois que ça, ce n'est pas une qualité morale. Ce n'est pas une disposition de l'esprit, ce n'est pas un pouvoir humain. Je crois que c'est l'acceptation de quelque chose qui nous est donné et que nous pouvons recevoir. C'était ma troisième remarque. Et puis enfin, je crois que cette confiance, ce sera ma dernière remarque, bien sûr, elle nous renvoie à cette question. Et vous là, qui dites-vous que je suis? Et toi, et moi, comment répondre? Et la réponse personnelle de Pierre, elle nous dit bien. Lui, il a bien entendu que c'était une réponse personnelle qu'il fallait qu'il fasse. Elle nous dit bien que Jésus ne s'adresse pas à la cantonade, mais bien directement à un être unique, à un être précieux et à un être qui a peut-être la capacité de répondre. Et ainsi, je crois que c'est le quelque chose aussi d'étonnant pour les disciples, mais peut-être aussi pour nous. Je crois que ce qui fonde notre relation, ce n'est pas d'abord une appartenance historique à une communauté, ni une appartenance sociale, mais c'est bien dans cette relation personnelle, individuelle, que la réforme bien sûr a redite, mais qui donne aux croyants cette capacité d'être seul. Et ça, c'est en même temps fort, seul devant Dieu, de pouvoir dire « je ». Bien sûr sans intermédiaire, nous le savons bien chez nous, mais aussi dans ce que c'est la solitude d'existentiellement difficile. Bien sûr, c'est riche de pouvoir être seul devant Dieu, mais c'est aussi terriblement exigeant, terriblement difficile à vivre, et parfois terriblement culpabilisant, parce que parfois on ne sait pas, et quand on ne sait pas, on est mal. Et pourtant on sait qu'on doit. Il y a là un jeu de la responsabilité exigeante, particulièrement dans nos églises protestantes réformées, qui est lourd. Le courage d'être, dira Tillich, ici je dis le courage d'être seul. Chacun est appelé à trouver les bons mots pour confesser Christ aujourd'hui, le dire dans son langage, un langage qu'il n'est pas facile d'imaginer aujourd'hui, qui n'est pas facilement reçu dans notre société, un langage aussi, je crois, qui se cherche parce que les mots ne disent jamais ce qu'on voudrait dire. Et ils ne peuvent pas dire complètement. Le langage, il est toujours incomplet, il est toujours fragile, il manque des choses. Et je crois que c'est beau aussi de dire que comme nos mots sont toujours inappropriés, comme ils sont toujours fragiles, comme ils sont toujours inadéquats, et bien quelque part ils disent une relation et un Dieu qui est lui aussi fragile. Dieu, il se dérobe toujours à nos mots. Il se dérobe toujours à nos pensées, à nos sentiments, à nos expériences, je crois. Et alors, je crois que c'est intéressant parce que peut-être c'est ce qui nous permet, et ça nous donne une grande liberté, peut-être de ne pas ériger nos discours en des discours absolus. Vous savez, comme si on disait la vérité. Voilà. On ne peut pas parce que ça nous échappe toujours. Parce que nos mots, ils sont qu'humains. Parce que c'est fragile. Et c'est peut-être dans ce sens, et c'est la façon de lire que je vous propose ce matin, qu'il faut comprendre ce secret dont parle Jésus à ses disciples lorsqu'il leur commande de ne parler de lui à personne, ou de raconter à personne ce qu'ils ont vu. Peut-être c'est une façon aussi de dire qu'aucun langage ne peut rendre compte de cette expérience intime de notre relation à Dieu. Et du coup, ce secret invite les chrétiens, les témoins, à quelque chose d'humble et de tolérant pour partager leurs convictions, sans se croire en possession des réponses. Je crois que ça nous préserve quelque part d'imposer aux autres ce qu'on croit. Ça nous protège d'un prosélytisme, ça nous protège d'une hégémonie, ça nous protège d'une domination. Parfois, ça nous protège trop, nous les protestants, parce qu'alors du coup, on est tellement humble qu'on ne nous entend plus, on ne sait plus ce qu'on pense, etc. Ça, vous le savez. Mais c'est une vraie tension, c'est une vraie tension qu'il nous faut garder. Il faut qu'on arrive à dire, et puis en même temps, qu'on garde cette humilité de ne pas savoir le faire. Je crois que ainsi. Les chrétiens, les témoins, ils peuvent ouvrir un chemin, ils peuvent poser des jalons, mais je crois que leur tâche, il s'arrête quand commence le responsable libre, libre et responsable avec Dieu. Nous sommes des témoins, nous faisons communautairement, individuellement, ce que nous avons à faire, et ensuite, il faut nous effacer. Le reste, ce qui reste, ce qui est essentiel, c'est pas à nous de le faire. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et je crois que ça nous dédouane de toute obligation de résultat, de toute mauvaise conscience, de tous nos regrets et de nos remords lorsque nous constatons que nos temples ne sont pas assez remplis ou que nos petits-enfants ou nos enfants ne sont pas assidus. Ça nous dédouane. Nous avons fait. Nous avons essayé, nous avons tenté de dire, nous avons commencé à partager. Le reste ne nous appartient pas et nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Je crois que peut-être l'essentiel se produira quand nous ne l'attendons pas. Au moment où, quand nous aurons le sentiment d'avoir fait ce que nous avons à faire, peut-être nous aurons en même temps le sentiment d'avoir été inefficace ou inutile. Parce qu'on ne sait jamais quand ça survient. Je crois que c'est un don, ça nous est donné, mais on ne sait jamais quand ça survient chez l'autre et avec l'autre et pour l'autre. Je crois que cette foi qui est déposée au creux de nos existences, elle fait de nous des témoins confiants, libres, mais aussi fragiles, qui peuvent en même temps dire... Je crois, et comme le père de l'enfant que Jésus guérit, viens au secours de mon manque de foi. Amen.